Bien bonsoir, mesdames, messieurs. Je constate qu'il y a quelques personnes qui ne peuvent pas s'asseoir. Ça va? Bonsoir Jean Lacouture. Je vous dirai pas
bien. Bonsoir Jean-Marie.
Je vous dirai pas bienvenue à Bordeaux. Parce que vous y êtes chez vous. Vous y êtes né.
Retour de l'enfant prodigue.
C'est le retour de l'enfant prodigue, mais il s'est déjà produit à diverses reprises, n'est-ce pas? Donc, heureux de vous revoir chez vous. Pour parler d'un livre, alors qui comporte une double signature, Jean Lacouture et Jean-Claude Guibaud. Alors, Jean-Claude Guibaud n'est pas là, je suppose.
Il est quelque part en Asie.
Ah ben, il est quelque part en Asie, bon, d'accord. On pourra en faire un livre, peut-être après. Et alors, c'est un ouvrage qui s'appelle « Sont-ils morts pour rien ?» avec comme sous-titre « Un demi-siècle d'assassinat politique ». Alors, bon, on ne parlera pas de Jean-Claude, enfin, on parlera de lui, bien entendu,
ouais,
bien sûr. Mais, je vais m'intéresser d'abord à Jean Lacouture, quand même. Alors, vous avez fait beaucoup de livres. Mais ce sont vos grosses biographies qui ont contribué à établir votre notoriété. Et alors, Malraux, Mauriac, De Gaulle, Mendès, même des biographies de moindre volume, comme celle de Jacques Rivière, et bien d'autres. Et, vous êtes toujours intéressé à des destins liés à la politique, Malraux, Mendès, De Gaulle, peut-être pas ce pauvre Jacques Rivière, mais encore que. Jamais à des destins qui se terminent dans le sang. Donc, qu'est-ce qui vous a conduit, avec Guibaud, à choisir comme sujet ces assassinats politiques, et qui d'ailleurs ne concernent que la seconde partie du siècle dernier?
Je vous ai d'abord dire que je suis heureux que la première conférence que je fais de ma vie, j'en ai fait beaucoup, qui commence vraiment à l'heure, ça se passe dans ma ville natale. J'en suis très fier. Il y a toujours le quart d'heure de la conférence, le quart d'heure de Roubaix, le quart d'heure de Washington, le quart d'heure de Pékin.
Le quart d'heure
Bordeaux,
bordelais,
il n'y a
le
pas
plus
de
fameux,
quart d'heure.
Le plus fameux.
À Bordeaux, on commence à l'heure. Et c'est d'une certaine façon, une certaine satisfaction, surtout pour un homme qui arrive souvent en retard. Mais en tout cas, nous étions, vous et nous, bien à l'heure. Alors, ce livre, vous savez, les idées de livre, c'est bizarre, ça vient généralement pendant des insomnies. Je me permets de vous dire, parler de moi personnellement, j'ai plutôt un bon sommeil, mais il m'arrive d'avoir des insomnies, et c'est dans les insomnies en général que viennent les idées. Et cette idée m'est venue il y a 4 ou 5 ans, ou 3 ou 4 ans, que la politique mondiale, qui avait été motivé, avancé, retardé par des idées, des idéologies, lesquelles idéologies pouvaient être meurtrières. Idéologie, ça peut vouloir dire aussi beaucoup de morts. Nous ne le savons que trop. Mais que depuis que les idéologies, en tout cas, mettons, pour amplifier le socialisme d'État, le socialisme qui avait modifié la vie publique du monde de 1917 à 1980, depuis que ce socialisme s'était, mettons, effondré, la vie publique dans le monde avait cessé d'être mue par l'idéologie, par les combats d'idées, même pas tellement par les combats frontaliers, territoriaux. Les nations ont à peu près trouvé maintenant leurs assises, leurs limites, leurs frontières, mais que depuis 30, 40, 50 ans, la vie politique mondiale avait été manipulée, bousculée, changée par des assassinats. Et que aux États-Unis, notamment, mais bon, en France, le général de Gaulle avait échappé à une bonne douzaine d'assassinats, tentatives d'assassinats. Ce n'était pas rien. Mais que dans le monde, de plus en plus, les sociétés étaient bousculées, changées et modifiées par la disparition de personnages importants du fait d'assassinats, d'attentats collectifs ou individuels. J'ai trouvé qu'il y avait là quelque chose qui méritait d'être examiné. J'ai fait un projet de livre et quand je l'ai apporté à mon ami Jean-Claude Guilbault aux éditions du Seuil, Jean-Claude m'a dit « c'est une très bonne idée, mais j'ai envie de partager le livre avec vous. Pourquoi on ne se partagerait pas les assassins ou les assassinés ?» J'ai trouvé, comme j'aime beaucoup Jean-Claude, j'ai trouvé que c'était une très bonne idée qu'il prenne, après tout, qu'il mette lui aussi la main dans la bassine pleine de sang. J'ai trouvé que c'était sympathique. Et nous sommes donc partis sur ces bases nouvelles de son entrée en jeu a fait que le livre a été un peu élargi, notamment du côté du monde russe. Il a voulu parler d'un grand moine assassiné, de Madame Politkovskaya, etc. Excellentes idées. Et nous sommes partis dans ce livre à deux, à quatre mains, bon, deux mains, et à deux têtes, oui, quand même, oui, et qui a abouti à ce constat qu'en effet, depuis un demi-siècle, la politique du monde avait été plus modifiée par des crimes que par des idées. Voilà, ce n'est pas une idée géniale, mais c'était peut-être intéressant à relever, et nous avons choisi, je pense, à peu près les exemples les plus manifestes, dans certains cas, des exemples éclatants et qui ont évidemment changé la face ou la face du monde, comme l'assassinat de John Kennedy, ou la face d'une partie du monde comme au Proche-Orient, l'assassinat d'Itzhak Rabin qui a changé évidemment la donne au Proche-Orient, et ainsi de suite, de fil en aiguille, nous sommes tombés sur 16 assassinats qui avaient changé la donne dans la politique mondiale d'aujourd'hui. Alors on peut passer de l'un ou l'une à l'autre. Je crois être capable de parler aussi des morts de mon ami Jean-Claude, comme de mes propres morts, si l'on peut dire, de mes propres victimes.
On va essayer de mettre l'accent sur vos propres morts, éviter malgré tout les morts de Jean-Claude Guilbault. Si je regarde la couverture, alors ça c'est un choix de l'éditeur, je suppose, n'est-ce pas ? Mais sur la couverture, il y a parmi les 16 que vous avez dénombrés, et il y a Martin Luther King, il y a Isaac Rabin, il y a Benazir Bhutto, il y a John Kennedy, et il y a Indira Gandhi. Et je sais pas que sur les cinq là, je vais pas dire qui a fait qui, etc. Si je vous interroge,
je peux vous le dire parce que pour vous inciter à parler plutôt voilà. De ceux que je connais le
voilà,
mieux.
Voilà.
Mais je peux essayer de répondre sur Madame Bhutto ou sur Indira Gandhi.
On va parler de ceux que vous connaissez le mieux. On va parler surtout de ce que vous venez de dire, qui est l'idée fondatrice du livre, c'est-à-dire comment ces 16 assassinats politiques ont eu des conséquences qui ont entraîné des changements mondiaux. Et pour ma part, en tant que lecteur, je ne suis pas sûr que ces changements aient été de la même importance, de la même dimension, dans tous les cas, naturellement. Mais alors, commençons, si vous le voulez bien, et je sais que vous le voulez, parce que ce que vous appelez, d'ailleurs, je crois, dans la postface, l'assassinat inaugural. Enfin, bon, c'est-à-dire celui, évidemment, qui a bouleversé absolument le monde et dont beaucoup de gens ici se souviennent, et pour les plus jeunes ont entendu parler, c'est-à-dire celui de John Fitzgerald Kennedy. Assassinat inaugural. Pourquoi inaugural ? Et alors... c'est intéressant parce que vous retracez évidemment toute la carrière de Kennedy. Et vous mettez en place tous les éléments qui, dans le déroulement de cette carrière, ont fait que son assassinat pouvait être prévisible. Et un peu, je dirais, contrairement à ce que vous dites tous les deux dans l'introduction... nous ne tirerons pas des conclusions sur les responsables de l'assassinat. Quand même, vous excluez certaines possibilités et vous en retenez d'autres. Bon. Alors,
naturellement, voilà. C'était fait partie de nos responsabilités. Dans chacun de ces cas, il y a la recherche des responsables. Des causes, des responsables et surtout, le plus intéressant, des conséquences. Et dans le cas de John Kennedy, l'assassinat, considérons comme inaugural, parce qu'en effet, historiquement, c'est lui qui ouvre la grande série des assassinés. C'est-à-dire, avant 1963, il n'y a pas de série d'assassinats comme on va les voir se dérouler dans les années qui suivent aux États-Unis, notamment, mais ailleurs, dans un certain nombre d'autres pays, apparemment plus équilibrés ou plus pacifiques. Mais celui de John Kennedy, chef de l'État le plus puissant du monde, le plus prestigieux du monde, chef d'État qui avait été élu dans une sorte d'extase internationale, c'est-à-dire quelque chose se passait de vraiment exceptionnel que nous avons plus ou moins revécu il y a quelques mois avec l'élection de Barack Obama. Il se passait quelque chose de réellement nouveau et à la tête de l'État le plus puissant du monde. Bon, à l'époque, c'était l'un des deux États les plus puissants du monde. Objectivement, les États-Unis était plus puissant que l'Union soviétique. Mais enfin, il y avait à ce moment-là deux États qui dominaient la planète et les États-Unis étant le plus considérable. Mais enfin, il y avait une sorte de... C'était encore la guerre froide, quand même, froide. Et il planait sur l'ensemble du monde quelque chose comme une menace singulière. Et puis, aux États-Unis... est élu un personnage d'exception, qui par rapport au président américain, pour diverses raisons, depuis Franklin Roosevelt, aucune élection présidentielle n'avait retenu l'attention du monde à ce point-là. Il y avait des raisons multiples, dont le fait qu'il s'agissait d'un président catholique, qui aux États-Unis était quand même une certaine étrangeté, les catholiques ne représentant que 25 à 30% de la population américaine. Bon, on a revu cette étrangeté à l'échelon encore supérieur avec l'élection de Barack Obama. Mais enfin, il y a eu ça a provoqué un choc. Et puis, le fait que Kennedy, la famille Kennedy, ces Irlandais, avec une telle personnalité, ce charme de toute nature, l'éloquence, un programme novateur, indubitablement. Il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le monde qui a fait que l'élection du président américain en 1960 a été quelque chose de qui a dépassé les frontières des États-Unis très 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 largement et non seulement au plan de la des rapports de force internationale, mais au plan de l'émotion, au plan de la si on peut dire de presque quelque chose de, je ne dirais pas jusqu'au mot érotique, mais enfin il y avait quelque chose de sentimental en tout cas qui s'est passé là. Il y a eu John Kennedy, la popularité, le rayonnement de John Kennedy accru, il est vrai, par le charme de son épouse, et secondairement, on le verra, éventuellement on y reviendra, par les qualités assez exceptionnelles de son jeune frère, fait qu'il y a quelque chose qui se passe là qui est extrêmement peu banal. Et les États-Unis, le monde et les États-Unis sont dans une situation très, très tendue. Les relations Est-Ouest sont en train peut-être de bouger. C'est vrai que nous ne sommes plus dans la guerre froide comme elle l'avait été quelques années auparavant où il n'y avait pas voir un président américain à Moscou, un président soviétique à Washington. Non, les choses commençaient à bouger, quelque chose était en train de se passer. Il y avait, d'un côté Kennedy, de l'autre Khrouchtchev, qui était ce qu'il était, mais qui, évidemment, n'était pas un animal de guerre. Il n'excluait certainement pas cette hypothèse, mais c'était pas non plus, évidemment, son objectif principal. Et le monde était dans une situation assez nouvelle, on dirait assez prometteuse. Et au moment où John Kennedy, après 2 ans et demi de présidence, marche vers une très vraisemblable réélection, un deuxième quadriennat, celui où on peut vraiment faire les choses, parce qu'aux États-Unis, on ne peut pas être réélu une troisième fois. Donc la deuxième fois, on peut prendre des risques, puisque l'électeur, on compte, bien entendu, par définition, il y a quand même le petit copain démocrate derrière qui attend, éventuellement, si c'est sur le frère en plus, c'est pas négligeable. Mais enfin, il y avait quand même, on allait vers un deuxième mandat de John Kennedy qui allait donner à la politique américaine apparemment un développement que la plupart des gens aux États-Unis et dans le reste du monde, en tout cas le monde démocratique auquel nous avons encore la chance d'appartenir, était plutôt favorable, plutôt positif. Et on peut vraiment dire que l'assassinat à Dallas de John Kennedy a été considéré comme une catastrophe par une grande partie du monde, pas seulement aux États-Unis. En France, moi, je me souviens du soir où on a appris la mort de John Kennedy. C'était en fin d'après-midi. Je me vois encore rentrant chez moi, ma femme en larmes, me disant « on vient de tuer John Kennedy ». C'est-à-dire, c'était quelque chose qui frappait quelqu'un. Ma femme n'est pas spécialement portée, ce n'est pas une pleureuse professionnelle. Elle sentait quelque chose venait de nous être arraché de très fort. Et je cite au début de long article que je consacre à cette question, le texte d'un biographe américain, le dernier biographe, il y a 3 ou 4 ans, il y a eu 7 ou 8 biographies de Kennedy, c'est la dernière, me semble-t-il, la meilleure, qui dit aux États-Unis, pendant les jours qui ont suivi, beaucoup de gens on a appris que beaucoup de gens n'avaient pas dormi, c'est-à-dire qu'il y a eu, un problème de santé dans la société américaine du fait de la disparition sanglante de John Kennedy. Donc c'est un phénomène, un assassinat est toujours tout à fait terrible, l'assassinat qui soit d'une personne privée ou publique, bien entendu. L'assassinat public retient les attentions plus collectives, mais celui-là a été vraiment de tous ceux que nous racontons là, probablement celui qui a bouleversé le plus grand nombre de personnes dans le monde. Et encore une fois, aux États-Unis, ça a été jusqu'à, je cite un grand sociologue, Michel Crozier, le meilleur français de société américaine, qui a étudié cette question, qui a dit « la société américaine a été, dans les familles, ça a été ressenti comme quelque chose d'une atteinte à l'intérieur, presque des vies collectives, des familles et des gens. » Alors, cet énorme événement, acte politique, criminel, politique, impose évidemment de savoir qui l'a fait, pourquoi et avec quelles conséquences. J'essaie, dans une trentaine de pages, de répondre à ces questions qui ont donné lieu, comme chacun sait, à un certain rapport des parlementaires américains qui est, franchement, on peut employer le mot, ridicule. C'est-à-dire que
énorme.
Personne n'a pris au sérieux ce rapport. Il est vrai que le président qui a succédé à John Kennedy, Lyndon Johnson, qui n'était pas n'importe qui, quand il a convoqué la commission, a dit « Pensez bien, mes amis, que les conclusions que vous allez tirer de vos travaux peuvent, si vous dénoncez, créer une autre guerre mondiale. Si vous dénoncez des responsabilités des Cubains, par exemple, ça peut provoquer l'indignation non seulement des Cubains, mais derrière eux, des Soviétiques, n'est-ce pas ? Donc, quand la commission a été mise en place, elle a été surtout... Si possible, n'allez pas trop loin avec vos conclusions. Je ne dirais pas que Johnson a recommandé à ces braves gens, mettons braves gens, de mentir, mais enfin, il leur a dit d'être extrêmement prudents. Et quelques dizaines d'années plus tard, beaucoup de livres ont été publiés sur la question. On sait que Kennedy a été officiellement tué par un bonhomme qui était d'origine russe et qui avait une femme soviétique qui venait d'Union soviétique qui s'est planqué lui qui avait donc un dossier particulièrement fâcheux auprès de la CIA et des services de police américains a réussi à se faufiler jusque dans la bibliothèque qui dominait le passage où allait venir le président des États-Unis avec une carabine qu'il avait achetée quelques jours auparavant et dont il se servait. Il était réputé comme, dans l'armée, on l'avait réputé comme mauvais tireur. Et ce type, en dépit de tout ça, se place là, à une place, et à 80 km de là, d'en haut, il tire. Et il atteint John Kennedy au meilleur endroit, derrière la tête. Et on sait que Kennedy est mort dans les quelques instants qui ont suivi. Alors, tout ça est bardé, bourré, non pas d'impossibilité, mais au moins de quelque chose d'extrêmement étrange. C'est pas extrêmement étrange. Que ça fait une série de coïncidences devant laquelle une personne normalement constituée qui voit ça de loin plus tard, même peut-être quelqu'un comme moi n'est pas entièrement objectif sur cette affaire. Je trouve que j'aimais le président Kennedy, que je pensais qu'il était là plutôt pour le bien de son peuple et que sa disparition me paraît avoir été un mal pour ce qu'on pourrait appeler dans le monde les causes de la paix et de l'équilibre international. Et que sa mort servait plutôt les causes, plutôt belliqueuses, tout ce qui peut ressembler à tout ce qui est belliqueux, si on peut dire. La guerre du Vietnam à l'époque, mais d'autres, mais les relations Est-Ouest en général. Alors, dans ces cas-là, on n'a pas. Il y a une version officielle. Version officielle d'un grand État démocratique, et nos amicales, notre allié. Donc, on a tendance à lui attacher une certaine importance. Mais d'autre part, on voit aussi le tissu d'invraisemblance ou d'approximation qui fonde la thèse officielle. Et on est naturellement à la recherche de diverses responsabilités autres. Il se trouve que John Kennedy, dans le début de son quadriennat, de son premier quadriennat, avait quand même patronné ou laissé faire, sinon patronné ou laissé faire, des expéditions ou des opérations à Cuba. Il avait mis la main des États-Unis dans ces opérations. Que les Cubains aient cherché à le supprimer n'est pas exclu. Du temps de Kennedy à Saigon, c'était encore la guerre du Vietnam, les frères Diem, les fameux mandarins catholiques, avaient été assassinés. Ce qui a rangé d'une certaine façon la politique américaine dans la mesure où elle voulait s'assouplir plus ou moins par rapport à la guerre. Alors est-ce que Kennedy n'avait pas donné son aval à l'assassinat des frères Diem à Saigon? Et est-ce que les catholiques vietnamiens n'avaient pas voulu se venger de Kennedy? Il y a toute une série d'hypothèses qu'on ne peut exclure aucune d'elles. Moi, j'ai retenu
Il y en a une que je vous interromps. Il y en a une que vous excluez, justement. C'est la mafia. Or, il a souvent été question du rôle de la mafia dans l'assassinat de Kennedy. Et vous, ça ne vous paraît pas vraisemblable?
Mais écoutez, non, je ne l'exclus pas du tout. Je le mets en second, au second degré. Mais enfin, il y a quand même au moins deux ou trois pages sur l'hypothèse de la mafia, parce que surtout le frère de John Kennedy, Robert Kennedy, attorney général, c'est-à-dire ministre de la Justice, avait entamé contre la mafia une lutte sans précédent aux États-Unis. Et donc que la mafia ait voulu se débarrasser des Kennedy, à commencer par le frère président, en attendant le petit frère second, c'est naturellement une hypothèse qu'on ne peut pas absolument exclure. Vous savez, je ne l'exclus pas, je la mets en second. Mais il y a un moment où je dis oui, mais enfin, on ne peut pas non plus exclure la mafia, d'autant qu'il y a des causes, ça va faire sourire ou quelques-uns, il y a des causes très personnelles, c'est-à-dire que John Kennedy était un... comme aux États-Unis, ils appellent ça un womanizer, c'est-à-dire un homme qui avait la... C'était un érotomane, à vrai dire, n'est-ce pas, John Kennedy? Et il a déclaré un jour au premier ministre de la République fédérale germanique de l'époque, qui était Kissinger, moi je ne peux pas vivre sans trois femmes par semaine. Alors, quand on est président des États-Unis, ça peut vous rendre service, évidemment. Mais enfin, ça crée quand même des problèmes très compliqués. Et il semble que parmi les dames que coursait éperdument John Kennedy, et il y en a une qui avait été la maîtresse de Sam Giancana, qui était un des chefs d'une des mafias américaines, en tout cas de la mafia de Chicago, qui avait contribué d'ailleurs à l'élection de Kennedy. Bon, donc il y a à tout moment dans une affaire comme celle-là, il y a des responsabilités possibles, même sur le plan aussi, si on peut dire, aussi terre à terre. On peut s'exprimer ainsi, que celui dont je viens de parler, on ne voit pas quand même très bien une vengeance féminine s'exprimer à Dallas, à travers, dans ces circonstances-là. Mais ce n'est pas non plus impossible. Il y a toute une série d'hypothèses dans la mort de John Kennedy. Moi, je retiens plutôt celle des services officiels américains. Je pense qu'ils ont voulu se débarrasser d'un président fort encombrant pour une série de raisons. J'ai tendance à, si vous voulez, à mettre le débat, le situer au plan politique, au plan des grandes décisions politiques. Mais les assassinats, les raisons qui agitent un assassin, c'est très compliqué de le savoir. Et là, en tout cas, il se trouve que l'assassin qu'avait opportunément découvert vrai ou faux, peut-être était-il vrai d'ailleurs. L'homme qui a été arrêté à Dallas, il se trouve qu'à peine arrêté, le lendemain, il a été assassiné opportunément par un personnage, par un gangster, qui était évidemment entre les mains de la police américaine. Donc on a voulu faire disparaître très vite quelqu'un qu'on avait dénoncé comme l'assassin, mais surtout qui ne parle pas. Donc le lendemain, à peine il est extrait de sa prison, il y a un gangster opportun qui vient le supprimer. Donc nous sommes devant une infinité d'hypothèses dans une histoire gigantesque qui a d'une certaine façon changé la politique américaine, car quelqu'un qui examine de près la politique des États-Unis avant et après la mort de John Kennedy, la longue présidence de Lyndon Johnson n'est pas exactement dans les mêmes tonalités que la brève présidence de John Kennedy. Pour moi, il y a des raisons de grandes politiques, notamment vietnamiennes, dans cet assassinat, mais je ne peux rien démontrer de façon claire. Je sors ces hypothèses, évidemment pour moi qui me suis, pendant de ma très longue vie, occupé du Vietnam, et j'ai tendance à privilégier cette piste-là, mais c'est toujours mon explication du crime est entourée de points d'interrogation. Je souligne quelques coïncidences entre la disparition de cet homme et l'accélération du cours de la guerre, mais peut-être que Kennedy vivant, la guerre se serait elle-même accélérée d'une autre façon, ou aussi intense en tout cas, c'est bien possible.
Alors si on évoquait maintenant la figure du petit frère, dont vous avez déjà parlé, n'est-ce pas, que vous avez rencontré, que vous avez rencontré, c'est pas le cas de
John Kennedy, je ne l'ai
pas. Mais Bob, vous l'avez rencontré, vous avez même cette jolie formule, il ressemblait à un James Dean ébouriffé, n'est-ce pas? Et donc, vous avez évoqué son rôle un peu dans l'ombre du frère, mais qui n'est pas un rôle insignifiant, puisqu'il a joué un rôle considérable dans la campagne présidentielle, et que même vous rapportez l'anecdote suivante, c'est-à-dire qu'à un moment, John dit « je suis fatigué », et que Bob répond « tu es fatigué, mais c'est moi qui ai tout fait », n'est-ce pas, hein?
Et alors, « man, I am tired », fatigué, mais c'est moi qui ai tout fait, dit Bob.
Bon. Et alors, lui, Bob Kennedy, n'est-ce pas ? Alors, bon, l'assassinat est sans doute en effet aussi complexe que celui de son frère, pour ce qui concerne les assassins eux-mêmes, les déterminations, etc. Mais c'est pas un assassinat qui a des conséquences aussi considérables que celles de John.
Je dirais, elles sont peut-être encore plus considérables, parce que John Kennedy a été un réformateur de la société américaine et Bobby Kennedy est élu un révolutionnaire. Bob Kennedy était le catholique qu'il était presque aussi bouleversant pour la société américaine que Barack Obama. Vous me direz que les révolutionnaires, quelquefois, leur fougue révolutionnaire se heurte aux réalités. Qu'est-ce que Bobby Kennedy, en quoi aurait-il pu bouleverser la société américaine? Je peux vous dire en tout cas que, pour l'avoir rencontré plusieurs fois et avoir publié de lui une interview assez précise, c'était un homme qui était vraiment un personnage qui voulait bouleverser la société américaine. C'était un homme, John Kennedy était un homme remarquablement brillant et un réformateur intelligent, mais enfin, c'était un politique d'abord. Robert était un personnage qui voulait changer la société américaine. C'était pas le mot, est-ce que je vais employer le mot révolutionnaire? Je sais pas, c'est un grand mot. Mais quand on parlait avec lui de la question noire, par exemple, aussi de la question vietnamienne, autrement, C'était un homme qui était là, qui allait, le jour, le soir où il a été assassiné, la minute même où il a été assassiné, il venait d'apprendre depuis quelques minutes qu'il allait être le candidat démocrate à l'élection qui allait se passer dans quelques mois. Il allait arriver à la convention démocrate de Chicago en élu du peuple américain et il avait 4 chances sur 5 d'être élu président des États-Unis. Le type qu'il a tué pour des raisons, nous verrons, tout à fait autres, n'est-ce pas ? C'était un homme qui avait en tête, en tout cas, un programme profondément... Oui, je vais employer quand même le mot révolutionnaire. C'était autre chose, vraiment. Le New Deal de Roosevelt, enfin, il pensait que la société américaine devait être changée en profondeur. Voilà, ça, il me le disait à moi. Pourquoi me l'aurait-il dit ? Je n'avais pas une telle influence si je ne pouvais pas le servir en rien du tout. J'entendais ce qu'il me disait et j'avais l'impression d'être devant quelqu'un qui voulait vraiment changer les choses en profondeur. Or, il a été tué par un jeune Palestinien parce qu'il avait proclamé son affection, sa fidélité à l'État d'Israël. Il a été tué en tant qu'ami d'Israël, ce qui aux États-Unis n'a rien d'original. Tous les hommes politiques américains que j'ai connus depuis très longtemps sont très favorables à Israël. Il n'y avait en ça rien d'original. Et il a été tué, pour la raison la moins originale de sa personnalité. C'est là, pour le coup, il n'y a pas de... L'homme a été... Il a été face à face, il l'a tué, il a été arrêté dans les minutes qui ont suivi. Est-ce qu'il y a eu un autre tueur derrière Chiran ? Ça reste une hypothèse et le procureur général a toujours dit « Je n'ai jamais dit, c'est Chiran qui a tué Robert Kennedy. Il a évidemment tiré sur lui, c'est sûr. Est-ce que c'est un autre tireur qui a derrière, l'a achevé ? Il a eu 5 balles dans le corps. » Bobby Kennedy, donc est-ce que la cinquième a-t-elle été d'un autre ? C'est contestable. Mais enfin, lui, le responsable a été d'ailleurs condamné à mort et quelque temps avant l'exécution par chaise électrique. La peine de mort a été supprimée en Californie, si bien qu'il est encore en prison et qu'il vit encore en prison à la prison de Sacramento, ce personnage. Mais voilà, donc pour le fait même de l'assassinat de Bobby Kennedy, c'est assez clair, beaucoup plus clair que dans le cas de son frère. Et les raisons sont assez étrangement secondaire par rapport à ce qu'il avait en tête et qui lui pouvait lui valoir d'être assassiné par les ennemis des Noirs, enfin les partisans du maintien du statu quo en matière des rapports entre les Noirs et les Blancs, pour des questions sociales, sur beaucoup de raisons, il était passible de la peine de mort, si on peut dire, et il a subi la peine de mort pour une raison, encore une fois, son amitié pour Israël, qui est une banalité aux États-Unis.
Il y a beaucoup de ces assassinés que vous avez, en tant que journaliste, rencontrés. Justement, par exemple, Bobby Kennedy, il vous a séduit, visiblement, n'est-ce pas ?
Je ne le nie pas.
Qu'est-ce qu'il y avait de séduisant, lui ? Hormis son côté James Dean et Boris.
Si vous rencontrez James Dean, qui en même temps est un homme qui non seulement partage vos idées, mais est en mesure de les faire appliquer dans la plus grande puissance du monde, vous avez des raisons de vous attacher à lui. C'est-à-dire, voilà un type qui était la séduction même. Je ne suis pas... Franchement, je préfère les dames, mais enfin, un homme beau et intelligent et séduisant, ça n'est pas indifférent. Mais et puis, c'était un type qui avait des idées sur le Vietnam. Il pensait que c'était une guerre folle et qu'il fallait l'arrêter, après avoir été un faucon. La guerre, 3 ou 4 ans plus tôt, mais il avait compris, après deux séjours à Saigon, que c'était sans issue, qu'il fallait arrêter cette guerre. Bon, pour moi, c'était l'idée principale qui conduisait ma vie à cette époque-là, je trouvais aux États-Unis un personnage qui allait être président et qui, si je puis dire, partager mes idées, n'est-ce pas? Et puis, sur la question sociale, sur la question noire, sur des questions qui me passionnaient moi-même, et il était, si je puis dire, dans la droite ligne, dans le bon chemin. Il avait toutes les raisons de me séduire, oui, bien sûr.
Alors, il y en a un autre qui vous a séduit aussi. Et là, on change complètement, on change un peu de territoire, de dimension, parce que, bon, les États-Unis sont les États-Unis. Et puis, après, il y a les pays européens. Et malheureusement, certains pays européens n'ont pas été à l'abri de ce genre de drame. Je pense essentiellement à deux pays qui sont évoqués dans le livre. L'Italie avec Aldo Moro, l'Italie des Brigades Rouges avec Aldo Moro, et la Suède, qui était le modèle de la démocratie paisible, etc., et presque aseptisée, enfin bon, et avec le meurtre d'Olof Palme. Olof Palme, vous l'avez rencontré, donc vous allez, et vous l'avez trouvé aussi très très intéressant et séduisant, vous allez nous en parler, mais est-ce que vous pouvez dire un mot quand même d'Aldo Moro, même si c'est Guibaud qui a...
C'est Guibaud, le territoire de Jean-Claude.
C'est le territoire il écrit, Guibaud, le crime le plus scruté, le plus analysé, le plus commenté. Bon, ce qui est quand même vrai pour d'autres aussi, n'est-ce pas? Bon.
Nous autres journalistes, nous disons facilement le plus.
Oui,
ça fait partie de notre vocabulaire. Non, c'est en effet Jean-Claude qui a traité le sujet d'Aldo Moro. Nous étions en discussion sur le fait de retenir le cas d'Aldo Moro parmi nos crimes, parce qu'Aldo Moro a été enlevé. Et c'est un enlèvement, de même que nous avons longuement discuté de savoir si nous allions traiter le cas de Mehdi Ben Barka. Nous ne l'avons pas traité. C'est pourtant une question dont je me suis vraiment beaucoup, beaucoup occupé, qui m'a occupé beaucoup d'heures et de journées et de semaines de ma vie. Mais parce que meurtre, pas meurtre, etc., sont des gens qui sont enlevés et puis qui, une fois qu'ils sont enlevés, sont abattus, achevés. J'étais plutôt partisan de retenir les cas de meurtre direct, en direct, si l'on peut dire. Mais comme vous avez bien remarqué que nous avons voulu qu'il y ait des cas, que l'Europe soit représentée dans ce malheureux bilan, pour ne pas laisser entendre que l'Europe était au-dessus de tout soupçon. Dieu sait que l'histoire européenne a été marquée par les meurtres, a été sanguinaire, mais là, nous avons pensé en effet que finalement, il fallait traiter Aldo Moro. C'est une histoire, là, je veux dire, complètement stupéfiante. Bien sûr que les terroristes italiens étaient des terroristes. Donc, c'est des gens sans foi ni loi. Bon, foi, peut-être avec foi, dans certains cas, terroristes, mais sans loi, en tout cas. Moi, je reste quand même, je reste pantois à relire. Dans le train, ce matin en venant, je me pensais qu'on pourrait peut-être, on allait peut-être parler d'Aldo Moro, comme ce n'est pas moi l'auteur. J'ai voulu le relire que dans la société italienne, chez nous, il y a les Alpes entre les deux, mais c'est pareil, c'est-à-dire entre Milan et Lyon, on est quand même pratiquement dans le même pays. Et dans un pays quasiment le nôtre, on puisse enlever l'un des personnages publics les plus admirés, les plus respectés, et qu'une bande de salopards puisse pendant des jours et des jours le maintenir, le garder dans un appartement au centre de la ville principale du pays, n'est-ce pas? C'est une affaire complètement stupéfiante qui montre à quel point, à une certaine époque, espérons que ça a changé, bien que La police italienne était quand même, à quel degré de corruption elle est arrivée, parce que cet homme, on savait qu'il était au centre d'une grande ville italienne et qu'il était retenu dans un appartement. Enfin, on ne savait peut-être pas exactement quelle était sa... Comment l'a-t-on laissé pourrir, laissé assassiner par un groupe d'individus? Ça reste pour moi complètement mystérieux, parce que ça met en question, d'une certaine façon, une société. Parce que là, il y avait des moyens de réagir. Quand dans une rue, on assassine monsieur un tel, président du conseil ou chef de l'État qui passe, bon, il y a un type qui, d'une fenêtre, tire. C'est très difficile. La police ne peut pas être partout pour empêcher quelqu'un d'avoir un revolver et de tirer. Mais là, pendant des jours et des jours, on a laissé ce malheureux
qui écrivait,
qui demandait mais venez me soutenir, mais venez m'aider. On l'a laissé mourir comme ça. C'est pour moi qui je suis vraiment j'aime profondément le peuple italien, l'Italie, la culture italienne. Ça reste pour moi complètement mystérieux, et je n'aurais pas, je pense que Jean-Claude a eu bien raison de traiter ce sujet. Je crois que je n'aurais pas eu le courage de le traiter moi-même. Il y avait quelque chose de trop déconcertant, de trop humiliant, si on peut dire, pour l'espèce humaine en général, quoi. Et en tout cas l'espèce italo-française à laquelle j'appartiens.
Alors, Olof Palme, c'est un peu différent, parce que la plupart de ces attentats, finalement, il y a une chose qui... ces attentats ou ces meurtres, enfin... il y a une chose qui est frappante chaque fois, c'est que chaque fois, que ce soit Jean-Claude, que ce soit vous, vous incriminez, le système de sécurité, et deux, la police. Et vous venez de le faire pour... Et comment se fait-il que c'est puissant soit entouré d'une sécurité aussi fragile, aussi vulnérable? Et comment se fait-il que à peu près chaque fois on se demande s'il n'y a pas des complicités du côté policier?
Chaque fois vous exagérez un petit peu, ouais. Mais dans un nombre de cas surprenant pour moi comme pour vous. Pourquoi? En tout cas, dans le cas du Premier ministre suédois Olof Palme, qui a été assassiné à Stockholm à la sortie d'un cinéma un soir à minuit, où il venait de voir un film, où il est allé, ce Premier ministre est allé au cinéma sans que personne n'en soit informé, que sa femme, son fils... Et sa belle-fille. Ils se téléphonent à 7h du soir, on va à 9h voir tel film, dans tel cinéma. Coup de téléphone comme ça, et le premier ministre suédois, je ne sais pas si ça arrive dans d'autres démocraties, va au cinéma sans la moindre, sans la moindre protection, qui n'aurait peut-être pas changé grand-chose s'il y avait eu 2 ou 3 flics autour d'eux. Mais en tout cas, le fait est qu'ils vont au cinéma, personne n'en est informé, sauf, je ne vois pas qui d'autre que les services d'écoute, c'est-à-dire des services officiels. Alors, il y a peut-être des services d'écoute privés. Est-ce que le Premier ministre suédois, qui était engagé dans plusieurs négociations importantes, dont l'une, je le raconte assez précisément dans cet article, avait trait d'une vente d'armes par rapport à une négociation avec les Indiens dans leur lutte avec les Pakistanais, il avait dans l'après-midi eu encore un contact avec un homme d'État important. Il y avait un Irakien, c'est un monde toujours un peu compliqué, et il avait eu aussi récemment un contact avec un Indien. Il avait été question dans ses récents emplois du temps des jours précédents d'histoire de vente d'armes. Les histoires de vente d'armes, c'est souvent, ça peut se terminer mal. C'est vrai, c'est assez classique. Mais en tout cas, là, dans ce cas présent, ce déplacement qu'il fait au cinéma dans la soirée ne peut être connu que d'un service d'écoute. J'ai tendance à penser que les services d'écoute sont plus ou moins des services officiels. et que c'était des services de la police. Alors, en quoi M. Olof Palme, chef du gouvernement socialiste, mais en Suède, c'est relativement banal. La Suède a été longtemps gouvernée par les socialistes, mais lui était un socialiste d'un genre un peu particulier, parce que les précédents socialistes suédois se contentaient, si l'on peut dire, de faire voter des lois sociales assez avancées sur le temps de travail, sur les vacances, sur les... pouvait déranger telle ou telle partie du patronat ou de la droite, mais enfin, bon. Mais lui se mêlait en plus de ce que je dirais avec ironie, ne le regardez pas, c'était s'occuper beaucoup de politique internationale. Il était très hostile, il avait dénoncé l'apartheid sud-africain qui était encore en cours à cette époque. Il était un adversaire très ardent. Je me suis trouvé à des tribunes à côté de lui de la guerre du Vietnam. Et il était un type qui était très engagé dans le sens des mouvements anti-guerre, si l'on peut dire. C'était un socialiste, ouvrez les guillemets, de gauche, fermez les guillemets. Et en Suède, il était pour cela très critiqué, parce que si les socialistes ont longtemps gouverné la Suède, longtemps avant Palme et depuis, la presse suédoise n'est pas spécialement une presse socialiste. La presse suédoise est plutôt conservatrice. Et la presse suédoise, si vous voulez, j'en cite un certain nombre d'exemples, si vous voulez retrouver une revue de presse suédoise dans les mois qui ont précédé la mort d'Olof Palme, elle est pleine d'appels à l'assassinat.
Elle est assassinée.
Et je publie dans mon livre des affiches. À Stockholm avait paru une affiche sur le sida. Il faut se débarrasser de ça, ou enfin, en le suédois, sida, oui. Je ne sais pas comment ça se dit en suédois, mais enfin, le sida, il faut s'en débarrasser, et à côté, les ennemis, les adversaires de Palme avaient affiché un truc, avec son portrait, et de celui-là aussi, il faut se débarrasser. En comparaison avec le sida, c'est quand même, c'est dangereux, quoi. Alors, d'où viennent les assassins de Palme? Je pense que je ne dis pas que la police était spécialement adversaire de Olof Palme, mais enfin la police, un pays est souvent plutôt tendance à être plutôt conservatrice, quoi, plutôt. Enfin, et le gauchisme entre guillemets de Palme pouvait l'irriter. Bon, je pense qu'étant donné que il a été assassiné par des gens qui avaient un service d'écoute pour savoir qu'il était à la sortie de ce cinéma à cette heure-là, j'ai tendance à incriminer quelqu'un qui vienne plutôt du monde public, du monde où on a des écoutes téléphoniques. Mais on ne peut pas exclure que des privés importants, de quelque origine, de quelque idéologie qu'ils soient, bénéficient d'un service d'écoute.
Parmi les 16 assassinats, c'est en effet un de ceux qui est un peu différent des autres, parce que nous ne sommes pas dans des imbroglios politiques comme au Proche-Orient ou comme en Inde, avec une multitude en effet de factions, de religions là, qui s'opposent. Il est différent des autres, mais alors justement, puisque ça c'est le problème qui vous intéresse, a-t-il eu des conséquences ?
Des conséquences, dans le cas d'Olof Palme, je ne dirais pas des conséquences considérables, parce que Palme jouait un rôle dans la politique internationale, c'était un médiateur né, et par rapport à la guerre du Vietnam, par exemple, c'est vrai qu'il était un adversaire déclaré, il a participé à des meetings à New York, des meetings très 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 militants contre la guerre du Vietnam, ou ailleurs. Bon, ça que sa disparition... À ce propos-là, à propos de l'Afrique du Sud ou tel autre, échanger la face des choses, non, je ne crois pas. Je crois que Palme a manqué à la société internationale, parce que c'était un homme remarquablement brillant, remarquablement intéressant. Il avait son mot à dire dans la société internationale. Mais il y en avait d'autres. Après tout, il n'était pas le seul juste ou homme d'État pacifique ou pacifiant dans le monde de cette époque. Il a manqué au camp de la paix, si on peut dire. Voilà ce qu'on peut dire. Et pour ce qui est de la Suède, je ne m'hasarderai pas trop, mais enfin, je pense que la Suède, qui ne manque pas d'hommes de valeur, bien entendu, mais des types de la classe intellectuelle de Palme, il n'y en a pas vraiment beaucoup.
Alors, parmi les figures considérables qui apparaissent tristement dans ce livre, il y en a une que vous avez rencontrée aussi, qui est Isaac Rabin.
Oui, c'est à la limite, Rabin est le cas limite, parce que lui, vraiment, c'est le cas où la mort d'un bonhomme change la donne.
Voilà.
Là, ça c'est clair. Ailleurs, on peut établir les bilans, mais là, dans le cas de Rabin, qui est engagé publiquement, qui vient d'annoncer, dans la place des rois d'Israël, qu'il est entré dans des négociations avec les Palestiniens. Quelques minutes plus tard, en descendant de la tribune, il est assassiné par un jeune militant, qui ne s'en cache pas, qui même, ce qui est absolument frappant, depuis des mois, se répandait en propos en disant, à travers la société israélienne, qui est une société de communication, où tout le monde sait tout. Mon dessein est de tuer le Premier ministre, il est en train de trahir Israël, il veut rendre la terre de nos ancêtres aux Palestiniens, et j'aurai sa peau. Il le disait très très clairement, on l'a laissé non seulement en liberté, on l'a laissé s'approcher d'assez près pour qu'à la tribune, en descendant de la tribune où il venait de prononcer un discours, Rabin est assassiné dans le dos, 3 balles dans le dos par ce type. C'est un cas parfaitement clair pour ce qui est des responsabilités et pour ce qui est des conséquences. C'est évident aussi, bien qu'Rabin ne fut pas du tout le seul en Israël à vouloir négocier avec les Palestiniens, bien entendu qu'ils étaient nombreux, mais il était par excellence le symbole. C'était vraiment l'homme qui, général de l'armée israélienne, général qui avait réprimé pendant la guerre de Palestine, qui avait réprimé durement les Palestiniens. Ce n'était pas un enfant de cœur, Rabin. C'était un vrai général qui était capable de quand il avait une mission dure à remplir, il la remplissait. Mais à partir d'une certaine époque de sa vie, après avoir été une première fois Premier ministre et avoir cherché ici ou là à sortir de l'impasse, il avait fini par se rendre compte que il fallait pas en passer par la négociation avec les Palestiniens. Ça arrivait là, il avait été renversé, il était revenu au pouvoir quelques mois plus tôt, et là il était revenu au pouvoir en disant clairement « je vais négocier avec les Palestiniens », et il venait de le rappeler dans ce discours sur la place à Tel Aviv, sur la place de la place des rois d'Israël. Et il a été descendu par ce jeune militant juif religieux tout à fait, qui a dit, et qui après, au cours de son procès, a continué à dire « mais je suis bien fier d'avoir descendu Rabin, c'était l'ennemi, c'est un ennemi du peuple juif, c'était un traître à la cause juive, et je suis très fier de l'avoir descendu ». Au cours de son procès, il a paradé, il a été condamné à mort, mais... qui a été commué en une peine à perpétuité. Ensuite, il est en prison, on peut le penser encore. Mais en tout cas, là, c'est un cas parfaitement clair. Là, vraiment, les raisons du crime, le meurtrier, c'est tout ce qu'il y a de plus clair. Le problème qui se pose dans l'affaire de Rabin, c'est dans quelle mesure les services de sécurité israéliens ont été vraiment déterminés à protéger le Premier ministre, ou bien si certaines fractions de ses services ont abandonné la vie du Premier ministre à son sort. Ça, c'est un, débat. Il y a plusieurs livres ont été écrits en Israël là-dessus, car sur ce plan, on peut dire que les Israéliens ne se ménagent pas et que la vérité est débattue en Israël avec une clarté admirable. Ça, il n'y a pas de question. Mais enfin, le meurtre, la raison du meurtre, la victime, les circonstances, là, c'est parfaitement clair. Et les résultats aussi. Les résultats est que depuis Rabin, il y a eu des volontés ici à exprimer, des volontés de négocier avec. Après tout, de temps en temps, on ne sait plus très bien si le Premier ministre est pour une négociation avec les Palestiniens ou pas. Mais en tout cas, ce n'est pas non plus. Il n'y a pas eu le jour et la nuit par cela. Mais enfin, il y a eu un changement de donne considérable. Quoi. À partir de ce moment-là, les hommes politiques publics israéliens ont compris que négocier avec les Palestiniens, c'était une question de vie ou de mort. Voilà. C'est pas. Non. Il y a des gens très braves et tout le monde n'est pas très brave.
Dans tous les cas, d'ailleurs, j'en reviens à ce que je disais, c'est que, et vous venez de le souligner, c'est que on constate que les services de sécurité peuvent être plus ou moins mises en cause. Et dans tous les cas aussi, on constate que la conduite de l'enquête est singulièrement, faillible ou douteuse.
Oui. Ni la protection de l'homme d'État, ni les recherches qui suivent ne sont dans la majorité des cas très impressionnant. Tout se passe comme si la donne de la politique internationale était que de temps en temps on supprime un homme public de haut rang qui est dans une affaire compliquée. Bon, pour tout, il allait trop vite ou il en voulait trop, il était en train de trahir telle ou telle cause, telle ou telle partie, etc. Dans beaucoup de cas, l'opinion publique s'accommode assez bien de la disparition de l'homme qui vient d'être assassiné. C'est assez frappant. L'indignation est toujours inférieure à ce qu'on avait, à ce qu'on attendait. Oui, c'est une constante.
Alors je voudrais on va donner la parole au public. Ça fait un tout petit peu plus d'une heure que nous parlons. Je voudrais quand même vous poser une ou deux dernières questions. D'abord, il y a quelque chose qui m'a fait sourire. Alors, c'est pas une postface, c'est une conclusion. C'est une conclusion qui s'intitule « Sur quelques oublis ». Bon, évidemment, oui, il n'y a pas tous les assassinés. Vous l'avez dit au début, ça aurait fait un livre de 600 pages, n'est-ce pas, bon. Notamment, vous... comment s'appelle-t-il ? Vous dites que vous n'avez pas parlé de l'Afghan Massoud, avec son
oui,
chose, là, qui a été assassiné en septembre 2001, que vous n'avez pas parlé d'Aliende.
Là, il s'est suicidé. Ouais. Vraiment, Aliende a été acculé dans son palais présidentiel et Aliende, je crois que même on l'a vu, se suicider. Donc là, vraiment, là, on a parlé quelquefois de l'assassinat d'Aliende. Non, il a été pris, si on peut dire, au piège dans son palais par un mouvement de foule très organisé, bien entendu, qui était probablement en vue de l'assassiner. Mais c'est lui-même, en tout cas, qui a mis fin à ses jours. Quant à Massoud, il est mort dans une opération qui m'a paru à moi. Nous en avons discuté avec Jean-Claude. C'est une opération de guerre. Il a été pris au piège dans une opération de guerre. Mais ça ne relève pas de l'assassinat. Ça, l'assassinat, c'est quand même pour l'essentiel au sein d'une société civile. L'assassinat rompt avec une légalité. Massoud était dans l'illégalité pour le meilleur. Il était un héros. Mais enfin... Il n'a pas été surpris de ce qui lui est arrivé, en tout cas.
Alors... On ne peut pas lui demander. Ça.
Non.
Alors, il y a néanmoins deux absences qui m'ont personnellement paru singulières. Deux absences. D'abord... L'Algérie vous a intéressé quand même dans votre vie, hein. singulièrement. Ah, l'archevêque d'Oran, Monseigneur Claverie, a été assassiné peu de temps d'ailleurs, ou en même temps l'ambassadeur, que le ministre des Affaires étrangères était en visite en Algérie. L'assassinat de l'archevêque d'Oran et assassinat des moines de Tibérine, dont on reparle beaucoup actuellement, puisque visiblement, là encore, les versions qui nous ont été proposées étaient certainement pas les bonnes. Donc, d'une part, l'Algérie, qui est quand même quelque chose qui vous intéresse.
Je ne rappelle pas les dates, là, ouais. Mais nous avons commencé avec l'assassinat de John Kennedy. Est en 63.
Ah bon, ça c'est bien postérieur.
C'est postérieur.
Bien postérieur, oui. Bien postérieur. Et deuxième, alors l'Algérie, d'une part, est proche de la France quand même. Et d'autre part, j'ai été étonné qu'il ne soit pas non plus évoqué. Alors même si ça, c'est, il n'est pas mort, mais l'attentat contre Jean-Paul II, il n'a pas été assassiné. Enfin, non, d'accord. Mais, d'accord, mais laissez-moi finir. Pas été assassiné, il a été singulièrement handicapé pour le reste de ses jours, le malheureux. Et cet assassinat, cette tentative d'assassinat comporte absolument tous les caractères de ceux que vous évoquez, n'est-ce pas ? On a bien trouvé un assassin, il vient d'être libéré, mais enfin, on ne sait pas du tout qui y avait derrière l'assassin. Et surtout, très lié à cet assassinat, à cette tentative d'assassinat, pardon, il y a celui du père Populesco qu'on va peut-être béatifier, peut-être. Et là, nous sommes en Pologne aussi, on est dans le...
Nous avons parlé du second cas, surtout du premier, ça nous a paru exclu, c'est-à-dire...
Il n'était pas mort.
Grâce à Dieu, c'est le cas de le dire.
La Sainte Vierge.
L'admirable Jean-Paul II a survécu, tant mieux. Vous savez, les balles qui ont été tirées sur les uns et les autres, il y en a un certain nombre, parce qu'alors, là, les tentatives de Gaulle, il aurait fallu... Combien c'est vrai que lui, il n'a jamais été atteint directement, oui. Sinon par quelques éclats de verre de la voiture du petit Clamart, mais...
Et les poulets de Madame de Gaulle dans le coffre.
Nous ne prétendons pas du tout être exhaustif. Écoutez, nous sommes deux journalistes quand même, nous n'avons pas l'histoire de l'assassinat au XXe siècle, mais sont-ils morts pour rien ? C'est-à-dire, ce sont des cas que nous évoquons, nous avons pris des cas qui nous paraissaient les plus savoureux, oui, éloquent ou intéressant, ou celui que nos vies professionnelles nous avaient amené à connaître.
Quoi. Alors, je voudrais justement dire cela. C'est-à-dire que, oui, un des mérites, il faut bien le dire, de ce livre, c'est que vous venez d'utiliser le terme savoureux, c'est qu'il se lit comme un roman, quoi. Il se lit avec un infini plaisir.
Il y a de mauvais romans.
Oui, il y a de mauvais romans, mais celui-là se lit avec un infini plaisir de lecture, et pourtant, c'est le sujet. Et la deuxième chose, c'est également dans ce que vous venez de dire, Jean, sont-ils morts pour rien ? Sont-ils morts pour rien ? Il faudrait reprendre les 16. Il est possible que sur les 16, il y en ait qui sont morts pour rien, en effet, non ?
En majorité, ils sont morts pour rien, en effet. Oui. En majorité, ils sont pas pour rien, pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a certains cas, la mort de Rabin, par exemple, est une mort qui a changé le cours des choses dans une partie importante du monde. Bon, la mort d'Anwar al-Sadat, faite des frères musulmans, au Caire, n'a rien changé du tout. Sadat a été remplacé par Moubarak, ça ne change rien. Ça change pour lui, pour sa famille, pour le mort, je regrette beaucoup. Mais ça n'a pas changé vraiment le cours des choses. Dans la mort de Kennedy, je crois faire sentir que Kennedy... Ça a changé beaucoup. La mort de Martin Luther King, pas beaucoup, parce qu'il avait fait son grand prêche, si l'on peut dire, pour l'égalité des races. Il avait dit l'essentiel. Martin Luther King, il est tué à un moment de sa vie où il est plutôt en train de se replier. Les assassins
le tue un homme qui a dit ce qu'il avait à dire, pour l'essentiel, quoi. Maintenant, c'est vrai que sa parole continue à avoir des conséquences importantes, mais le tuer ne pouvait que grandir ce qu'il avait dit étant encore en vie. Mais d'une certaine façon, lui, en effet, est mort pour rien. Dans, je dois dire, 3 cas sur 4, on pourrait dire que ces femmes et ces hommes sont morts pour rien. Ils avaient fait l'essentiel, ils avaient dit ce qu'ils avaient à dire, ils étaient dans leur combat avait été accompli. Je pense que dans la majorité des cas, ils sont en effet morts pour rien, oui.
Pour ce qui est de Martin Luther King, en tout cas, Guillemot dit que finalement, la mort de Martin Luther King n'a pris sa véritable dimension qu'après, quoi. Et en particulier avec l'arrivée au pouvoir.
Il est à ce moment-là, quand il est assassiné, il est relayé par les militants noirs américains. Violent par ceux qui préconisent lui était non violent, la lutte pour les Noirs non violente, et après il est relayé dès avant sa mort. D'ailleurs, déjà, les hommes de la violence ont pris les choses en main.
Alors, nous ne pouvons pas parler de tout, et nous avons fait l'impasse sur un pays qui. Un continent. Un grand pays, qui passe pour celui de la non-violence et où règne une extraordinaire violence qui est en effet l'Inde, mais bon, c'est pour l'essentiel, c'est Jean-Claude qui a parlé de ça. Donc on oubliera ce soir Indira Gandhi ou Benazir Bhutto. On va vous dire merci Jean Lacouture, et bien sûr, et vous applaudir.